France Culture. France Culture, de cause à effet. Aurélie Luneau.
Ah, regarde, ça se détache en balle. Les arbres qui émergent de la brume. T'as l'impression que c'est comme une résurrection. C'est beau, c'est beau, c'est beau.
Famille Munier, la nature en partage, de père en fils. Au cœur de la forêt des Vosges, la beauté du vivant et le monde sauvage se vivent comme un héritage. Initié à l'affût par son père Michel, naturaliste et photographe, Vincent Munier, lui-même photographe animalier et réalisateur de films, a choisi de rendre hommage à celui qui lui a tout appris et poursuivre la transmission auprès de son fils Simon, des empreintes du cerf au battement d'ailes du grand tétras, des apparitions du lynx au bruissement des arbres de la forêt. Bonjour Vincent Munier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci, merci.
Oui. Loin de votre forêt des Vosges.
Oui, on est content de partager tout ça.
On vous connaît pour vos très belles productions et réalisations, tant en matière de photos que de films. À l'image de La Panthère des Neiges, honorée par le César du meilleur documentaire en 2022. Mm-hmm. Et vous êtes aujourd'hui avec nous pour nous parler du film Le Chant des Forêts, un film au cinéma à partir du 17 décembre, une ode à la nature, à la transmission et un plaidoyer pour la préservation du vivant. Et je précise que le film est accompagné d'un très beau livre du même titre. Et nous avons le plaisir de recevoir aussi votre père. Bonjour Michel Munier.
Bonjour Aurélie.
Un grand merci aussi pour votre présence. Vous êtes naturaliste, photographe, auteur de L'Oiseau Forêt, un livre paru aux éditions Cobalan, 50 ans d'observation du grand tétras, dont vous êtes un spécialiste et un défenseur, on va s'en rendre compte et le mesurer dans cette émission. Richesse, beauté, fragilité de ce vivant, au programme de Deux Causes à Effet, le magazine de l'environnement de France Culture. Bienvenue à toutes et à tous, l'émission est toujours en partenariat avec le journal Le Monde, préparée par Célestine Babinet, avec la collaboration de Aurélie Marcet, Vanessa Chang, Anne Delaveau de Lina et celle des équipes de documentation de Radio France, avec toujours Alexandra Malka à la réalisation et à la technique aujourd'hui, Stéphane Touvenin.
Et toi, papa, quand est-ce que tu as passé ta première nuit dehors ?
Tout seul ?
Ouais, tout seul.
Mes premières nuits, je pense que c'est devait être au tétras. À 12-13 ans.
À ton âge, exactement.
Papa, il était à plusieurs centaines de mètres, tu vois, sous un aile de sapin, et puis moi, il me laissait là.
Tu restais pas, tu rentrais à la maison ?
Non, je suis allé 200-300 mètres plus haut, sous un autre sapin, dans un autre affût. En même temps, il a voulu tester. Hein. Je ne l'ai pas forcé, je ne l'ai pas attaché au pied d'un arbre. Il était tout content. Et dans la nuit, tempête de neige. Et moi, j'étais à 300 mètres au-dessus de lui. J'étais inquiet, quoi. Et je me suis dit, mais comment il va se comporter, tu penses, quand je suis arrivé dans l'affût, puis que j'ai commencé à l'appeler. Ben, d'ailleurs, il n'entendait pas, puisqu'il y avait beaucoup de neige. J'appelle Vincent.
Non, en fait, tu fais le sifflement.
Et c'est là que j'ai fait le sifflement, parce qu'on avait un sifflement de ralliement. On faisait, tu sais, quel oiseau ? On a dû te le dire.
Je ne savais pas trop quel oiseau, mais c'était... Oui, voilà.
Un peu comme le loriot, quoi.
Et quand vous vous entendiez, vous faisiez...
Ouais. Voilà. Et donc... D'un seul coup, je voyais une branche qui bouge, la neige qui tombe. Clac ! Il avait une banane comme ça, parce qu'il y avait un tétras qui s'était perché derrière, sur un pin. Hein ?
Ouais, ça a été un grand moment.
Ça a été un grand moment, ouais.
Extrait de votre film Le Chant des Forêts, Vincent Munier. On sent que vous franchissez là un cap en nous offrant une immersion au cœur de la forêt des Vosges, une sorte de conte où se mêlent l'amour de la nature et la transmission familiale en compagnie de votre père, de votre fils Simon. Pourquoi et pourquoi maintenant ?
C'était assez évident une fois La Panthère finie. Je m'étais dit, déjà ce serait quand même bien de relever le défi, de faire rêver les gens avec des espèces de chez nous. Il y avait déjà ça, et cette envie aussi de partager cet enseignement que j'ai reçu, parce que je me rends compte à quel point c'est un énorme privilège, franchement, d'avoir grandi avec la forêt pas loin, et puis des parents qui nous ont ouvert les yeux sur cette beauté de la forêt. Et puis mon âge, j'approche les 50 ans, et je me dis, c'est pas si vieux, mais en même temps, j'ai quand même 35 ans d'affût, un peu plus même... ou de photographie en tout cas, et je me disais que c'était le moment de... Il y a aussi un espèce de passage de relais, quoi. La photographie, c'est vrai que je l'ai un peu délaissé au profit de l'image, de vidéo, du film, parce que je trouve que c'est un moyen qui est quand même assez puissant pour transmettre des émotions. Je me suis mis un peu en trait d'union entre mon fils et puis mon père. Comme un relais, je me suis un peu effacé en me disant, voilà, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à partager, franchement.
Et un partage, on va le comprendre, qui va au-delà aussi de la famille. La cabane, lieu idéal pour raconter au coin du feu. C'est ce côté conte, hein, effectivement, comme je le disais au début de l'émission. Et pour se remémorer aussi les grands moments vécus dans cette vie d'affût. Vincent Munier, donc le grand étrat, et puis il y a eu les grues de votre enfance, que vous suivrez ensuite à 18 ans pour un premier grand voyage et d'autres aventures, et la Panthère des Neiges, et le Lynx des Vosges, etc., etc.
La cabane, c'est génial. Enfin, moi, j'ai quand même grandi... J'ai eu quand même cette chance, la famille était entourée d'amis naturalistes de toutes sortes, il y avait des entomologistes qui s'occupaient des mammifères, des castors, enfin plein de... Et les soirées diapo, quand on racontait, moi j'écoutais ça avec des oreilles comme ça, des yeux, et c'était quand même assez passionnant, quoi. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de recréer ça, on se raconte, le grand-père qui raconte des histoires à son petit-fils au coin du feu, au milieu d'une cabane, au fond des bois. Ouais, je trouve qu'on manque de ça, on manque de tous ces liens et c'était assez fort. Donc ça charpente notre histoire, c'est un peu le fil narratif, cette cabane. Et après, avoir raconté des histoires à son petit-fils, à Simon, on va les vivre. C'est une invitation.
Michel Munier, comment vous-même avez-vous été éduqué à la beauté, à la richesse de la nature ?
C'était une immersion quotidienne. En fait, on vivait dans une petite maison et aussitôt qu'il y avait un temps libre, eh bien, il fallait qu'on soit dehors. Il n'y avait pas de place dans la maison pour flâner ou pour lire. Il fallait aller dans la forêt qui était toute proche. Donc avec tout ce qu'il y avait, toutes ces bêtes qu'on pouvait même toucher, surtout les batraciens. Hein. Je me souviens que c'était formidable. Mes parents m'ont transmis surtout le respect de la vie, le respect de la terre. C'était très important. Puis j'avais aussi un oncle qui habitait dans une verrerie, dans une cité des bois, et puis qui m'amenait en forêt. Et lui, il inventait les noms des oiseaux. Et par exemple, le pique-noir qu'on voit dans ce film, il l'appelait le maître d'école. Mais je disais, mais pourquoi ? Mais parce que le maître, il avait une blouse grise, noire, et quand il voulait prêter l'attention, avec sa règle, il tapait sur le tableau. Toc, toc, toc. Et là, tout ça, c'était un mouvement. Et puis, on trouve tout dans la forêt. Il y a tout ce qu'il faut. Vous avez un couteau, un bout de ficelle, vous êtes le plus heureux des gamins.
Et la rencontre avec le grand étrat, c'était un peu plus tard, en dévalant une pente enneigée, toujours dans cette forêt des Vosges.
Oui, c'est ça. Alors ça, c'était un choc. Vous savez, on fait beaucoup de rencontres. Les rencontres sont extraordinaires, nous forment et tout. Mais vous avez des rencontres qui vous bouleversent et qui vous mènent sur un chemin inattendu. Surtout, ce qui m'a marqué, c'est cette température, 2 mètres de neige, un cocon de glace, et puis un oiseau de la taille, quand même, d'un dindon. C'est-à-dire, c'est un oiseau qui fait 5 kilos, 1m30 d'envergure, qui nous voit entre les arbres crépis de neige. Et la question, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on puisse vivre dans des conditions comme ça. Et donc, je me suis dit, mais je veux savoir pourquoi il est là et comment il fait pour vivre.
Et donc, vous êtes devenu naturaliste par passion, par vocation, en amateur, et puis aujourd'hui, on peut dire en professionnel.
Je me refuse de parler des spécialistes ou de professionnels. Non, non, c'est une passion. Je vis la nature, non seulement avec mon regard, mes oreilles, et tout, mais surtout au fond des tripes, quoi, avec vraiment les valeurs que nous avons vraiment au fond de nous-mêmes. C'est tellement important.
Et donc, vous avez donné ce goût du vivant sauvage à votre fils, Vincent. Une évidence dans son éducation ? Il a été mis à l'école de la nature tout de suite ?
La transmission, c'est, on ne l'explique pas, on ne le dit pas, on le vit.
Elle se vit.
Voilà. Avec toute la famille, ma famille, on était toujours en forêt. Et vous avez tout. En automne, c'est les feuilles, les champignons. Au printemps, les chants des oiseaux. C'est un monde fabuleux.
Mais un fils qui choisira de s'immerger dans la forêt, hein, de vivre cette école buissonnière, plutôt que de passer les épreuves du bac, est-ce que là, il n'y avait pas une petite inquiétude quand même du père, où vous êtes dit, j'ai une totale confiance en l'avenir de mon fils ?
Pas du tout. Au lieu de passer son bac, il a pris son appareil photo et il est parti en forêt. Moi, j'étais pas au courant. Et en tant qu'enseignant, je vous assure que j'ai pris une bonne claque parce que j'aurais souhaité que mon fils soit instituteur, par exemple, ou travaille à la SNCF. Eh ben non,
un
pas du tout.
Métier stable, bien, voilà.
Et Vincent Munier, il y a votre fils, Simon, dans le film. On sent qu'il est riche d'une double transmission que vous lui transmettez, l'un et l'autre, de façon alors complémentaire, sans vous concerter. Comment ça se passe ?
C'est pareil, moi je me suis pas tant posé de questions, mais je me suis dit, au départ, l'idée c'était quand même de... d'amener au cinéma plutôt l'héritage, enfin tout ce que m'a légué mon père. Simon n'était pas trop dans l'histoire, et quand même, ces dernières années, on est un peu désillusionné par, des fois j'ai un peu plus trop foi par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Et ce qui me tient, c'est quand même le retour des enfants. C'est quand même assez génial de voir à quel point, je me dis, bon là t'as quand même un rôle, on parlait de relais,
oui.
Et je crois vraiment que c'était important. Et Simon... il ouvre vraiment ce projet de film aux jeunes de son âge. Et puis moi, c'est à l'âge de Simon que ma vie a été bouleversée. Un peu comme toi, papa, avec le grand tétras. Moi, c'était quand il m'a laissé tout seul en forêt. Je raconte souvent cette histoire, mais souvent seul. Ça change. Et lui était beaucoup plus loin, à plusieurs centaines de mètres ou un kilomètre. Et j'ai vécu une rencontre avec une bête, un chevreuil en l'occurrence, et ça a aussi bouleversé ma vie. Donc je me dis, entre 10 et 14 ans, c'est quand même des âges où il peut se passer des choses. Une rencontre, un livre, un film, des voyages, ça peut vraiment orienter le chemin de nos vies. Et donc Simon, je me suis dit, allez, on y va, mais de manière très naturelle. Hein. Il n'y avait pas eu de mise en scène, on a beaucoup filmé, de manière un peu brute, même s'il y avait une écriture en amont pour présenter le projet. Mais il y a eu une seconde écriture au montage, évidemment, en fonction de ce qu'on avait saisi pendant le tournage.
Et donc transformer Simon en pisteur, lui donner ce goût aussi de voir, écouter, sentir les lieux, comme les espèces le font, hein, donc se mettre dans la peau et dans les plumes des différentes espèces qui sont aussi des acteurs du film, on ne va pas les oublier. Et puis vous parvenez justement, Vincent Meunier, aussi et surtout à transmettre aux spectateurs la magie de la forêt et ce qu'elle renferme. C'est un basculement dans le sensible, dans le beau, dans le vrai, une immersion sonore et visuelle qui suscite, je vous le garantis, hein, émerveillement et bonheur partagé.
Les arbres aussi écoutent le chant des oiseaux, tu vois.
Ah ouais. C'est une chouette.
Oui, chevêchette. C'est la plus petite de nos chouettes.
Michel Meunier, reconnaître les sons. Les bruits, les langages des différentes espèces qui peuplent les forêts, c'est un apprentissage qui devrait être aujourd'hui, plus que jamais, partagé par tous.
Ah, ce serait essentiel. Je crois que c'est essentiel de, alors pas forcément de connaître, par exemple, tous les noms, mais de poser de temps en temps, sur un son, un nom. C'est, on a peur souvent quand on est dans la forêt parce qu'il y a des sons qui nous inquiètent. Mais quand on pose un nom, c'est apaisant. Tous ces bruits que l'on entend dans la forêt, viennent de vibrations. D'où viennent ces vibrations? Alors parfois on ne sait pas, mais c'est tellement bon, et c'est vraiment un grand bonheur de se dire, ah ben, je vois pas, mais j'entends.
Ça fait penser aux classes vertes pour les élèves du primaire.
L'école du dehors, faire retravailler nos sens, c'est essentiel. J'aime beaucoup quand il dit, dans l'extrait que vous avez repassé, les arbres aussi écoutent le chant des oiseaux, il dit ça à Simon. Et moi, je trouve ça super puissant, parce que comme tu le dis bien, là, c'est une histoire de vibration, il y a des choses qui nous échappent aussi. Comme il dit, il n'y a pas besoin de poser tout, obligatoirement des noms scientifiques, tout ça. Il faut qu'on ressente vraiment les choses. Et on le sait maintenant, c'est Ernst Zurcher qui en parle très bien, qui dit, maintenant, c'était démontré scientifiquement que une forêt qui chante, où il y a les chants des oiseaux, ça favorise la croissance des arbres. Donc imaginons ce que ça peut faire aussi sur nous. Ça fait des choses sur nous, il y a des vibrations, ça nous remplit sans qu'on s'en rende compte. Et ça, c'est thérapeutique, hein. Franchement, on en a vraiment besoin. Donc être dehors, évidemment, c'est ce que tu dis. Et c'est vrai que...
Le tu, c'est pour Michel...
Oui, pardon. Oui, je le dis. Être dehors, c'est un peu une réponse pour le dedans, en quelque sorte, pour notre intérieur.
Oui. Et parmi ces espèces, donc, il y a le grand tétras, Michel Meunier, votre oiseau fétiche, oiseau fantôme. Été présent dans nos forêts depuis 10 000 ans. Parlez-nous de lui, ce grand tétras. Vous avez passé, je crois, environ 600 nuits d'affût à l'attendre.
Oui, 600 nuits dans le calme des forêts, ou parfois dans les tempêtes, ou dans ces ambiances que la nature parfois est brutale. Et je voulais vivre ça. Je me disais, mais pourquoi il vit dans ces conditions-là? bien, tout simplement, il a choisi de vivre là par nécessité, par survie, parce que quand il fait très froid, il y a très peu de prédateurs. Donc là, il est libre. Je le voyais se déplacer sur les manteaux de neige, mais vraiment cool, quoi. Il était confiant. Il était, c'était son royaume. La glace, la neige, c'est son royaume. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de prédateurs. Aussitôt que la terre se réchauffe, eh bien, les prédateurs sont plus nombreux et se fait croquer. Donc voilà, il faut accepter aussi. Donc c'est difficile, je n'entends plus ce chant que j'ai entendu les fins d'hiver dans nos forêts. Ça me fait vibrer. Là, vous passez ce chant-là, vous passez ça résonne. Il faut accepter le changement, le bouleversement. On parle de réchauffement climatique, ça fait 20 000 ans qu'on est dans le réchauffement climatique. On est dans une accélération du réchauffement climatique qui bouleverse tout. Donc il faut bouleverser nos actions, bouleverser nos attentions. On reste un peu les pieds dans les sabots et c'est dommage.
Ouais, et accepter que le grand tétras ne soit plus là dans les Vosges. Il a disparu des Vosges, il en reste dans les Pyrénées, les Cévennes, le Jura. Je crois qu'on compte environ 4500 grands tétras, dont 90% dans les Pyrénées. Qu'est-ce qui a causé sa disparition dans les Vosges ?
Les Pyrénées sont plus au sud. Oui. On devrait se dire, mais pourquoi il est encore là ? Tout simplement, les forêts sont à 2000 mètres d'altitude dans les Vosges. Les forêts sont à 1200 mètres d'altitude. Donc voilà, on a pu... Ces 6 mois d'hiver, avec 2 mètres de neige, dans les Pyrénées, à 2000 mètres d'altitude, il y a encore de la neige. Mais la population dans les Pyrénées a régressé en 20 ans, je crois, de 60%.
Et puis, il y a une exploitation forestière qui a eu cours il y a quelques temps. Hein. À l'époque, c'était à coups de coupe rase, des plantations massives d'épicéas, le développement des activités touristiques, etc., etc. Et c'est un oiseau qui a besoin de calme et de ne pas être repéré par les GPS, d'ailleurs, qui permettent aussi à tout le monde aujourd'hui de se frayer un chemin hors des pistes et des sentiers battus.
Vous savez, moi, j'ai connu, il y a 50 ans, en forêt, il n'y avait aucune trace de pas d'homme, ni de ski, ni de raquette. Et il faut bien se dire que les loisirs de la glisse existent depuis maintenant moins de 50 ans. Ouais. Et la forêt est considérée comme un espace de jeu et de liberté pour l'homme. Et ça, c'est grave. C'est très, très grave pour la faune. On n'est pas seul, on n'est pas les êtres dominants. Donc, qu'est-ce que demande la forêt ? Ben, un peu de respect. Elle donne tout, mais on doit quand même y aller avec prudence.
Et lui laisser son territoire, vous dites, du grand tétras. Il est l'esprit de la nuit qui appelle le jour. C'est-à-dire
ben, oui, parce qu'en fait, c'est un poète russe qui dit ça. Quand vous êtes dans votre affût, et puis au moment du chant, vous l'entendez à 2-3 heures du matin, qui commence à chanter. Pourquoi ? Pourquoi il chante à cette période-là ? Et notamment de nuit, c'est tout simplement parce que son chant est faible, ils ne s'entendent pas entre eux. Aussitôt que, à l'aube, les petits passereaux chantent, ils ne peuvent plus s'entendre. Donc ils commencent de bonne heure pour dire « je suis là » et ce sont des signaux entre eux.
Il faut préciser pour nos auditeurs que vous avez fondé en 1979 le groupe Tétras Vosges pour aider les acteurs forestiers de l'époque à préserver cet oiseau rare. Il n'y en avait plus que 250, je crois, dans les années 70 et une dizaine en 2021. Oui. Et puis vous êtes battu pour le sauver. Finalement, le combat a été vain aujourd'hui. Vous dites que des réintroductions, il ne faut pas s'amuser à cela avec cet oiseau, ce serait même criminel.
Déjà, je ne suis pas le fondateur, j'ai participé à la fondation de cette association. Et effectivement, on a engagé les forestiers à travailler sur la forêt. Et vraiment, les agents de terrain ont fait un travail formidable, insuffisant, bien sûr. Mais le réchauffement climatique nous a rattrapés et maintenant... Vous avez un collège actuellement qui regroupe des gens d'administration d'espaces naturels qui vivent dans des bureaux, des financiers qui vivent aussi dans des bureaux, qui sont pour et qui s'opposent à un autre collège qui est celui des naturalistes, des scientifiques qui disent non, faut pas le faire. Voilà, donc.
Parce que le territoire n'est plus le même et que cet oiseau ne peut plus vivre en tant que tel dans les Vosges.
Je pense que chacun peut comprendre ce qui se passe.
Ce film et ces moments que l'on vit avec vous sur grand écran sont là aussi pour nous faire réfléchir à ces disparitions et cultiver toujours l'émerveillement pour sauver le reste.
Yeah.
France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
Alors, qui étaient les musiciens dans ce concert de la forêt? Vous les avez reconnus, j'imagine. Vincent Munier?
Ben, celui dont tu parlais juste avant, le maître d'école.
Ah ben, le maître pic noir.
Le pic noir.
Ou Arsène le pic noir. Et puis après, on avait un pic cendré qui ressemble au pic vert, mais qui a un chant qui se termine plus en douceur, un peu plus long. Pic cendré qui est assez plus rare que le pic vert. Et bien sûr, c'est une forêt qui chante, c'est une forêt où on a gardé les arbres morts sur pied, au sol. Ça, c'est une forêt qui chante, qui vive, c'est ça.
Et oui, parce que ces arbres morts, ils redonnent la vie, Michel Munier.
Bah, tout à fait. Hein. Je crois qu'on comprend, on a du mal de comprendre, puisque actuellement, on veut prélever toujours les gros bois, les bois morts, nettoyer les forêts. Et c'est un drame parce que vous supprimez des nurseries, des maternités, des supérettes qui permettent à faire chanter les forêts, à les rendre beaucoup plus résilientes.
Et c'est ça qui était génial dans son travail sur le Grand Tétras, c'était vraiment d'axer sur l'habitat plus que sur l'oiseau. Et c'est un peu ce qu'il dit, quoi. Voilà, alors certes, le Grand Tétras est parti, parce qu'en effet, il y a un réchauffement climatique, mais là où ils ont œuvré pour garder ces forêts vivantes avec des diversités d'essences, d'âges différents, ces arbres morts, eh ben, il y a ça, il y a toute cette résistance, il y a toute cette diversité, cette force qui sera vraiment tellement précieuse par rapport à nos enjeux qui arrivent avec le réchauffement climatique, les sécheresses, on va avoir ça, les tempêtes, des arrivées de scolytes, vous parliez des monosylvicultures d'épicéa. Donc c'est ça qui est assez chouette, je trouve que dans ce combat où pendant plus de 50 ans a ciblé plus le milieu que l'espèce, ça montre sur le long terme que c'est quand même beaucoup plus précieux pour la vie, quoi.
Oui, parce que comme vous le dites, il y a un énorme travail hein, à réaliser pour les forestiers dans cette forêt des Vosges et dans d'autres forêts aussi, mais qui subit le réchauffement climatique, donc du stress hydrique, les incendies, les chenilles, le scolyte, donc ce qu'on appelle les insectes nuisibles, même si certains n'aiment pas le mot nuisible, puisque c'est un équilibre des écosystèmes. Il y a aussi une maladie qui attaque les frênes, hein, je crois, Michel Munier.
Il y a beaucoup d'atteintes, même par exemple les champignons. On vous parle des champignons amis, des champignons ennemis, non. Un champignon qui tue l'individu, c'est pour le transformer en humus pour enrichir les sols. Il n'y a pas de nuisibles, il n'y a pas d'ennemis.
Un équilibre. Mais en même temps, effectivement, il faut être attentif à ces forêts qui subissent beaucoup, et peut-être beaucoup trop, sur un temps court.
Mais bien sûr, là vous avez raison. En fait, la forêt, c'est un temps long. On agit tout de suite, très rapidement. Notre rythme est basé sur le rythme de la production rapide, alors qu'il faut qu'on s'adapte à la forêt et non pas adapter la forêt à nos exigences.
Il faut pas qu'on tombe dans le même schéma que l'agriculture intensive. Et là, c'est ce qu'on voit en forêt, quoi. C'est quand même assez triste. Moi, je suis toujours un peu surpris parce que dans les Vosges, on parle souvent du film des Grandes Gueules avec Bourville Ventura, vous vous souvenez?
Oui.
Et en fait, finalement, il y a plein de petites scieries un peu partout qui travaillaient avec respect, de manière très raisonnable, où ils exploitaient, donc on utilisait le bois, mais avec intelligence. Et là, on est face quand même à juste, il n'y a plus que un ou deux gros scieurs, quoi. Il y en a un qui est monumental, qui veut des bois de 30 cm, pas plus, tous le même calibre, et c'est des machines qui vont. On se dit non. Et nous, ça nous attriste terriblement, quoi. C'est des forêts mortes. Et ce film, il y a, sous son aspect un peu poétique, contemplatif, un peu, et puis notre histoire de filiation, il y a aussi un message évidemment militant, quoi. C'est un autre moyen, c'est sans les mots, par les vibrations. Qu'est-ce qu'une vraie forêt? Et qu'est-ce qui va nous ramener, en plus de la beauté, mais une force, et puis ce dont on dépend, c'est franchement ça.
Alors justement, dans cette immersion sonore, Vincent Munier, vous avez utilisé, on imagine, un système ou des systèmes spécifiques pour les capter, hein, je parle des sons, et nous les restituer avec cette intensité. On voit d'ailleurs à un moment Simon équipé lui-même d'un capteur et d'un casque pour être encore plus au plus près de ces sons de la forêt. C'est une méthode pour l'éduquer, on imagine, à l'univers sonore.
Mais c'est comme une parabole, en fait. C'est comme un téléobjectif. On va zoomer dans le son pour l'approcher du micro. Et pour les chants des oiseaux, c'est assez chouette.
Et vous, comment vous avez fait?
Et c'est marrant parce qu'on a retrouvé une photo où tu avais construit ta parabole, toi, en fibre de verre. Et j'avais l'âge de Simon avec ton vieux Tascam. Et on enregistrait déjà les oiseaux dans les années 90. Cette dimension sonore, elle était hyper puissante. Enfin, on a la chance d'amener ce projet au cinéma. Et en fait, on remet les gens dans une condition, dans une espèce d'immersion. Ils pénètrent dans la forêt, il faut qu'ils soient enveloppés par tout ça. Pas que l'image, mais le son, ce dialogue des animaux. Ce film, c'est une proposition de redonner la parole aux bêtes. Comme le dit mon père, la parole aux timides, aux discrets, aux insignifiants on les laisse de côté. Ça, c'est une proposition, en tout cas, réveiller nos sens, réveiller cette beauté
Et avec cette envie aussi, Vincent Munier, de faire corps donc avec la nature, de se rendre invisible, d'où l'affût. Hein, on vous voit construire un affût.
C'est ce qui m'a vraiment montré, quoi, depuis tout gamin. C'est comment s'effacer pour qu'un monde s'ouvre.
Et réussir à faire partie vous-même de ce vivant non humain jusqu'à en être accepté. On sent qu'il y a beaucoup de choses dans ce film. Un film qui est lui-même un affût de l'intime aussi, votre affût de l'intime. Et la nuit, et le jour, et les réveils, et les spectacles rares. La notion du temps n'est pas du tout la même.
Non, non, c'est beaucoup plus dilué. Je sais pas, c'est une école. L'affût, c'est quand même un art de vivre qui nous fait, savourer peut-être un peu plus les choses, les moments où ça arrive.
Oui, puis c'est un temps de méditation, puisque vous avez des temps où très longs. Donc, vous méditez sur le sens de la vie. Vous êtes au sol, contre un arbre, avec des branches qui vous couvrent. Vous êtes comme dans un cocon, quoi. Et vous ressentez beaucoup de choses. Et comme le disait Vincent, qui sont prouvés scientifiquement maintenant. Le monde de l'humus est un monde extraordinaire, le monde des champignons. Il faut lire Francis Martin, hein, qui est un grand ponte que nous avons la chance d'avoir en Lorraine.
Et que nous avons eu l'occasion d'inviter aussi dans l'émission. Il est incroyable.
Mais c'est extraordinaire. Sous la forêt.
Techniquement, Vincent Munier, comment vous avez tourné ces images à travers donc trois personnages humains, hein, votre père, vous, votre fils, trois angles de vue. On imagine caméra, appareil photo, les yeux de Simon, tout cela. Il fallait quand même un dispositif qui ne soit pas trop lourd non plus, minimaliste. Mais comment on fait ?
Ben non, c'est vraiment ce qui m'a inculqué dans la forêt, c'est vraiment de pas être intrusif. Donc on était une équipe très légère. En l'occurrence, il y avait tout un pôle d'images, d'archives, parce que tous les matins, tous les soirs, si les conditions sont bonnes, je suis dehors. Et comme mon père me le disait, c'est-à-dire qu'on a des rendez-vous tout le long de l'année, quoi. Il y en a des rendez-vous avec les bêtes. Et donc j'ai accumulé toute cette somme d'images. Et puis comme pour un livre photo, on a écrémé, on a été chercher, sélectionner les plans les plus forts. Qu'est-ce qu'on voulait vraiment partager? Qu'est-ce qui nous a fait vibrer sur le terrain? Qui nous a donné la chair de poule, quoi? Et comment est-ce qu'on va le mettre ça en abîme? Et après, donc ça, c'était 8 années d'archives et une petite année de tournage où, avec la cabane, les week-ends, de temps en temps, on a fait 10 jours en Norvège seulement. Et là, on était en équipe. Là, il y avait Antoine Lavorel et Laurent Geoffrion qui m'ont aidé au cadre, nous filmaient tous les trois. Donc, on était deux, pas d'ingénieur son, pour être en équipe très, très réduite. On a quand même fait un affût au Grand Tétra à 5 mètres carrés, quoi. C'était tout petit. On a enchaîné des nuits et c'était un défi parce qu'il ne faut pas faire de bruit, quoi. Comme il le disait, on se glisse dans l'affût à 5 heures le soir jusqu'au lendemain 10 heures le matin pour ne pas déranger le Grand Tétra qui arrive sur sa place de chant le soir et qui vient chanter à 2-3 heures le matin. Et ça, c'était un défi qu'on a réussi à relever et c'était pas évident.
Tu vois, il y a un petit trou là derrière.
Je vois pas.
Si, regarde, montre les deux trous.
Attends, montre-moi un peu avec ton doigt.
Tu vois le petit?
Ah oui, je l'ai. Ah ouais, génial.
Oh, il y en a deux.
Elles sont prêtes à l'envol. Oh là là, ces petites gueules.
On entend la mer. C'est le premier vol.
Excellent.
Regarde comme il est maladroit.
Mais j'adore cette petite tête, quoi. Un vrai petit punk. Un peu comme toi au réveil, Simon.
Le vivant n'est pas juste du paysage. Il est acteur principal du film. Il y a du monde, d'ailleurs, au générique, Vincent Munier. Et on voit combien ces moments sont précieux entre vous trois et nous, non seulement spectateurs, mais immergés dans cette forêt. Quand je dis il y a du monde au générique, ce n'est pas innocent. Hein. Vous avez choisi de mettre dans l'ordre d'apparition tout ce vivant, humain et non humain.
Oui, bah ça c'est un clin d'œil, je pense que c'est comme je dis, moi j'aime bien dire la nature n'est pas uniquement un spectacle mais aussi une vie à partager, quoi. Il faut qu'on retrouve, j'aime pas qu'on dise oh, bah c'est beau, ça suffit plus, quoi. On en fait partie et il faut arrêter de hiérarchiser, quoi. Ça, on en parle de plus en plus et tant mieux. Comment on fait pour revenir à quelque chose de beaucoup plus horizontal, quoi. Il y en a marre. On souffre tellement de l'arrogance de notre espèce sur toutes les autres. Enfin, c'est voilà, quand on est sur le terrain, c'est dur. Il y a de quoi être misanthrope, hein, franchement. Donc là, oui, c'était une volonté de revenir, voilà, à égal, quoi. Franchement, que ça soit des toutes petites bêtes. Et c'est même son message, en fait. Il se rend compte que méfiance des oiseaux totems, en quelque sorte.
Oui, le message de votre père, hein.
Oui, attention de pas hiérarchiser, quoi. Il n'y a pas une espèce plus importante que les autres, et encore moins nous.
Et là, les petites têtes dont on parlait, c'était quoi, dans cet extrait de votre film?
Ah, alors là, c'était des maisons jupées. Mais ça, c'est génial. C'est notre favorite, hein. Enfin, pas trop, mais... Et on a assisté à leur premier saut, après 2 semaines dans leur nid, dans leur trou.
Michel Munier, vous voulez nous en parler ?
C'est effectivement l'insignifiant. On est souvent fasciné par les grands arbres, par le cerf, ces grands animaux. Mais il faut se poser des questions aussi. Ben, les grands arbres, pourquoi ils sont-ils là ? Il n'y a pas d'arbres sans insectes, il n'y a pas d'insectes sans arbres, il n'y a pas d'oiseaux sans arbres, mais il n'y a pas d'arbres sans oiseaux. Les champignons, tout, on peut tout passer. Donc, on survole la beauté des forêts. Mais quand on l'aperçoit avec ses sens profonds, mais c'est fantastique, quoi. C'est pas que des arbres, c'est tout ce qui fait l'arbre. Donc, la beauté, c'est à l'infini. Vous êtes émerveillé, parce que vous ressentez beaucoup plus que parce que vous voyez.
C'est ce que vous appelez le vrai, Michel Munier.
Le vrai, le juste.
La beauté, la magie, le silence, la plénitude, on a tout ça dans le film. Vincent Munier, on est loin des IA génératives. Est-ce que l'IA peut faire des films comme les vôtres ? Vous êtes posé la question ?
Non, je suis un peu dépassé, j'ai du mal à me projeter par rapport à tout ça, franchement non. Mais là, c'est une proposition de ne pas être dans le spectaculaire en tout cas, on n'est pas dans une succession de belles images, on veut pas en mettre plein la vue, mais c'est essayer d'être assez fidèle à nous ce qu'on vit sur le terrain. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont suggérés, un peu comme des fantômes, la brume est aussi un personnage du film, je trouve. Elle est là pour amener beaucoup de... Encore une fois, laisser une grande part à l'imaginaire, comme pour le son. C'est une réalité du terrain. Quand on est sous le sapin, comme il dit, la tête contre l'humus, et qu'on sent des fois le sol trembler à tout près, on suggère ces présences. Il le dit très bien à un moment, dans cette cathédrale de glace, il y a des petits cœurs qui battent, quoi. En fait, c'est là, c'est un monde d'invisible. Et si on a cette capacité à tout doucement à s'effacer, petit à petit, ça devient visible, mais voilà, de manière très mystérieuse, très magique. C'est un peu comme des prières, en fait, ces rencontres-là. Il y a une notion assez spirituelle. C'est un sujet délicat, mais je trouve qu'on est dans une période où on manque cruellement de stabilité. Et nous, c'est notre ancrage, en fait. Et il y a une dimension spirituelle, c'est clair et net.
La brume, la pluie, la neige, qui ne fait pas le même bruit dans cette forêt que la pluie. Et tout cela nous embarque. Il y a aussi les musiques du film. Il faut les mentionner parce qu'elles sont exceptionnelles. Celles, alors, composées par Warren Ellis et d'autres compositeurs.
Alors, Warren Ellis, qui était déjà avec nous dans l'aventure de la panthère. Et puis là, on a Rosemary Stanley et Dom Lanena, qui est de Birds on the Wire. Et là, j'étais ravi de faire ce mélange entre eux, plus les sons nature, plus nos images. Enfin, c'est ça qui est génial dans le cinéma, quoi. C'est qu'en trouvant un dosage un peu subtil, on arrive à transmettre cette émotion dont je vous parlais, essayer d'avoir cette ambition, prétention de faire vibrer le téléspectateur, quoi.
Il y a un film, donc, Le Chant des Forêts, où se joue une symphonie grandeur nature avec votre fils, d'ailleurs, Simon, qui chante.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi, si j'étais un oiseau, je dansais sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait de lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs.
Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, s'écrier ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant, qui pourrait l'aimer franchement, personne n'aimerait se retrouver, au cœur d'une tempête avouée, il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
La symphonie des éclairs, chantée d'abord par Simon et puis ensuite par Zao de Sagazan. Et c'est notre émission De Cause à Effet, le magazine de l'environnement sur France Culture. Nous poursuivons notre émission De Cause à Effet sur France Culture. Vous êtes bien dans le magazine de l'environnement et Famille Munier, la nature en partage de père en fils, c'est le sujet du jour. Une plongée au cœur de la forêt des Vosges, une ode à la beauté du vivant et du monde sauvage qu'il nous appartient de préserver grâce au dernier film du réalisateur et photographe animalier Vincent Munier, film à ne pas raté, intitulé Le Chant des Forêts, au cinéma à partir du 17 décembre. Avec nous, bien sûr, Vincent Munier et son père Michel Munier, naturaliste et photographe, auteur de L'Oiseau Forêt, livre paru aux éditions Cobalan, 50 ans d'observation du grand tétras. Et vous l'aurez compris, avec beaucoup d'autres acteurs dans ce film, dans cette émission Immersion.
C'est lui.
Vincent Munier, qu'est-ce qu'on vient d'entendre à l'instant ?
Ouais, c'est notre panthère de la forêt, le lynx des Vosges. Et j'étais trop content de pouvoir lui montrer. Il m'a montré tellement d'autres choses. Il a passé 50 ans dans ces forêts vosgiennes et sûrement qu'il a été vu par le lynx, mais il l'avait encore jamais vu. Et là, on a eu une chance inouïe parce que quelques minutes près, un quart d'heure près, le lynx arrivait de nuit. On l'aurait pas vu. Et là, c'était vraiment une grande chance. Et puis ce son que vous avez mis là, et c'est vraiment lui. On avait posé des micros près d'un nid de chouette hulotte. Et c'est lui qui venait en feulant le long de la crête. Et il est venu se poser à 2-3 mètres, se coucher devant moi. Il avait même pas peur. C'était incroyable. Et après, il est allé là dans la direction des micros. C'est pour ça qu'on entend sa progression petit à petit. On entend qu'il respire sur le micro. Il a marqué dessus, c'est-à-dire qu'il a pissé dessus. Et c'était un moment tellement puissant de voir cette proximité. Et puis surtout, ce qui est rare chez nous, vu qu'on est quand même dans un monde où la pression de chasse est très forte, là, le lynx, il avait une maîtrise de son environnement, il avait pas peur de moi, quoi. C'est lui qui avait décidé de la rencontre.
Ah oui, parce que ce que vous dites souvent, c'est que eux vous voient avant que vous ne les voyez, souvent.
Mais c'est ça, mais c'est évident, c'est plein. On est vu en permanence. Et c'est pour ça qu'il faut se mettre dans la peau d'un animal, en fait. Il faut utiliser leur stratégie, surtout encore plus d'un lynx, par exemple, qui est un roi du camouflage, pour se cacher. Après, voir, comme il disait, de voir cet infini, parce que c'est ça qui est génial. C'est un livre ouvert.
Quel est l'état du lynx aujourd'hui dans les Vosges ?
Alors là, Voilà, autant on a donné un avis défavorable à la réintroduction du grand tétras, parce qu'évidemment, quand on réintroduit une espèce, il faut déjà comprendre pourquoi elle a disparu, et que les conditions soient bonnes, en l'occurrence elles ne le sont plus pour lui, on voit bien, ils en ont mis 20, il n'en reste plus qu'un, donc il se meurt à petit feu. Et le lynx, là, c'est un beau projet. Il y a un travail pédagogique à faire auprès des chasseurs, parce que c'est vrai qu'avant tout, pour qu'ils arrêtent de le tuer, mais ça, je trouve que c'est de mieux en mieux, au niveau de la fédération de chasse. Mais le lynx, il a sa place, parce qu'on a quand même, il a l'habitat et il a le potentiel proie. On a beaucoup de chevreuils, beaucoup de chamois, des jeunes cervidés. Donc il a tellement sa place là, vraiment. Et on n'en a plus que 2 ou 3, 4. C'est triste. On a du mal à avoir des femelles. On a des barrages aussi avec dans les Vosges du Sud, avec des autoroutes. Donc il faut que là, on investisse sur des passages à faune pour que la population du Jura revienne tout doucement, naturellement dans les Vosges. Et de temps en temps, pourquoi pas, si on a un lynx dans un centre de soins comme à Athénas, qui font un super travail, une femelle, pour les remettre un petit peu de côté vosgien, où là, il y a des mâles qui sont en attente de femelles. Mais en tout cas, ça, ce serait un beau défi de travailler sur ces retours de grands prédateurs.
Michel Munier, cette rencontre avec le lynx.
Ah ben c'était fantastique, vous voyez combien de fois je me disais, puis je le raconte, que, il faut le répéter, on est vu, il y a des yeux partout qui nous voient. Et cette rencontre, j'y croyais pas trop, parce que quand il m'a dit, ben voilà, il y a une proie à tel endroit, est-ce que tu viens? Bon, ben je suis venu en me disant non, surtout qu'il tombait, et il y avait un orage, et il y avait la pluie et tout.
On était trempés, ouais,
c'est bon. On était trempés, quoi. Alors donc, comment vous dire, quoi, c'est... Vous croyez que vous n'existez plus, que vous êtes ailleurs, quoi. C'est fantastique, quoi. C'est un moment très fort. Mais faut pas forcément l'attendre. Il vient, c'est lui qui vient à vous.
Puis il y a cette sensation de se sentir plus vivant, je crois, quand on attend longtemps et qu'on a une présence. Alors c'est comme on parlait un peu d'une prière ou d'un moment un peu fort spirituellement. Et t'as l'impression de... On disait qu'on manquait d'harmonie et tout ça. Et t'as une sensation d'être plus vrai, d'être plus vivant, d'être en contact quand t'es vraiment face à ces regards. Même le grand-duc, c'est la même chose quand il nous avait vus, hein, et le grand-duc et le lynx. Mais c'est quelque chose qui est... Il y a une espèce d'harmonie. Tu te sens en lien avec eux.
Dans ce film, on sent bien que vous apprenez les uns des autres et que là, le lynx s'offre à votre père, Vincent Munier. C'est vrai qu'il y a ces moments magiques. Il y a aussi votre fils Simon. Toujours intéressant de voir ce que vous lui transmettez et ce que lui peut aussi transmettre à ses aînés.
Je repensais à Simon.
C'est-à-dire ?
Eh bien, quand dans la neige, là où hier je lui disais « mettez pas dans mes pas ». Puis au lever suivant, c'est lui qui est passé devant et il m'a dit « Papy, je passe devant, mettez pas dans mes pas. » J'ai vraiment apprécié. Ouais, c'est génial. Hein.
Est-ce qu'on peut dire que Simon a été totalement saisi ? C'est un adolescent qui vit dans ce monde qui va vite, qui vit avec les outils modernes d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez quand même senti que lui-même découvrait des choses, qu'il y avait des révélations peut-être, ou qu'il fallait encore engager des journées, des soirs d'affût pour vraiment rendre cette nature ?
Comme il l'a dit au début, je crois qu'il n'y a rien qui est tout se fait naturellement. Là, on ressent bien dans cet extrait que Simon, il a ce côté un peu fantasque, un peu rêveur, même quand il chante Zao. Enfin,
difficile de se réveiller aussi parfois le matin.
Et difficile. Ouais, mais c'est vraiment ça. On n'a pas triché. C'est tellement lui. Il en avait marre des fois de nos affûts. Ben non, mais se réveiller pour les petites chouettes, non, je préfère dormir. Il n'y a rien qui est franchement calculé. Mais par contre, je pense que ce soit avec mon frère, ma sœur et moi, on a quand même grandi énormément. On a passé beaucoup de moments dehors. Et ça, c'est quand même riche. Quel que soit notre chemin après, peu importe. C'est des valeurs qui sont là, qui sont, à mon avis, importantes. Et c'est ce que j'essaye avec Simon. Mais il est aussi, voilà, maintenant il est adolescent. Il a aussi son téléphone, il passe du temps sur TikTok. Mais cependant, il a ces valeurs-là. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il reste toujours plein de curiosité, émerveillé par ce qui nous entoure. Quand il voit à travers la fenêtre un piquet-pêche ou une petite maison jupée, il est tout enthousiaste. Ah, papa, regarde. Et ça, rien que ça, c'est chouette. C'est juste une espèce de bienveillance par rapport à tout ce qui l'entoure. Et s'il garde ça jusqu'à sa vie adulte, c'est parfait. Mais qu'il prenne son chemin. Voilà.
En tout cas, il accepte le temps suspendu. Hein. Et ce film fut aussi une quête, voir pour Simon, ou revoir hein, pour vous, le grand tétras.
Là.
Tu l'entends ?
Simon. Simon, lève-toi. Viens, viens, regarde. Allez, regarde. Là, un petit peu plus à droite, là.
Il a fallu partir en Norvège pour aller à la rencontre du grand Tétra. Là-bas, il y a encore des populations, Vincent Munier.
Ah ben là, il a toutes les conditions pour vivre, évidemment. Ouais, ouais, on a encore des hivers rigoureux. Ça n'a rien à voir avec chez nous, évidemment. Ouais.
Et alors,
donc là, ce moment, c'était quand même pas rien hein, de pouvoir lui montrer ça. Et c'est vrai qu'on est resté une dizaine de jours. C'était pas simple parce qu'il fallait trouver une place de chant aussi. Et donc, il y a tout ce travail de pistage qu'il a fait avec son grand-père. Donc, on voit les lectures de crottes quand il lui montre les crottes, des plumes. Et puis, ses tentatives d'affût, de construire des cabanes. C'est ça qui était chouette. C'est que mon père, il reste un éternel gamin, en fait. Et j'adore voir ses yeux pétiller parce qu'il construit, il montre à Simon comment faire un affût, quoi, avec la végétation du coin et puis enchaîner, voilà, les nuits. Et là, on a eu ce coq, c'était fascinant, qui est passé à une quinzaine de mètres de nous.
Est-ce que ça a été la plus belle rencontre pour Simon ou il a été fasciné par d'autres espèces?
Ah ben, je pense, il dit pas grand chose. Hein. De toute façon, il y a un peu de pudeur chez nous si on dit trop rien. Mais il a été quand même saisi, donc on verra. Ouais.
Michel Munier, revoir le grand Tétra.
Oui, le revoir, entendre son chant, sentir sa présence, sentir l'habitat, sentir l'odeur de la neige, tout ça c'est fort, mais le vivre à trois avec son fils et son petit-fils, c'est quand même quelque chose de puissant. Hein. J'ai pas de nostalgie parce que je me dis qu'il m'a appris beaucoup. Cet oiseau-là, je voulais le connaître, même au bout de 50 ans, je me considère pas comme un spécialiste. Il a encore plein de mystères à découvrir, mais par contre, il m'a fait découvrir la forêt, l'ambiance de la forêt, parce qu'il a exigé, à la limite, je dis ça comme ça, mais à ce que je prenne du temps, beaucoup de nuits, beaucoup de quêtes, de marcher lentement, voilà, d'observer ses indices.
Il s'est fait désirer, on peut dire.
Oui.
Et on vous voit dans le film prendre des notes. Qu'est-ce que vous couchiez sur ces pages? En bon naturaliste, j'ai envie de dire, il y a toujours avec vous des carnets, des croquis, des notes?
Oui, j'avais deux carnets. J'avais toujours un petit carnet pour noter succinctement les heures et ce qui se passait, et puis comparer d'une année à l'autre ce qui se passait. Mais j'avais surtout un Rodia A5, toujours sur moi, maintenu avec un élastique, et qui me permettait de noter mes impressions, ce que je ressentais. Et ça pour moi, c'était très important de le noter. Vous savez que par moins 15, moins 20, dans la neige, mon calepin, mon Rodia était dans le sac de couchage et j'écrivais à l'aveugle. Et à l'aveugle, en mettant un doigt contre la couture, j'écrivais. Ensuite, je revenais à la ligne, je mettais trois doigts. Et puis quand j'avais fini, je mettais un élastique à cette place-là. Et donc, alors parfois, ça marchait bien, mais le lendemain, j'avais réécrit. Mais là, j'ai pu en tirer quand même... pas mal d'émotions ressenties.
C'est pour ça que tu as mis du temps à réécrire. Hein. Parce qu'il a déchiffré tous ses carnets pour aboutir à L'Oiseau Forêt, le livre qu'on a édité et qui rassemble tous ces grands moments d'affût.
Il y a beaucoup de grands moments dans ce film. Une biche suivie de son fan, c'est ça?
Ah, j'aime beaucoup ce plan.
Il traverse une pièce d'eau.
C'est osé, hein, mais moi, c'est ça qui me plaît, c'est que... Il y a quand même un peu d'inspiration aussi de peinture. Je trouve que c'est tellement des œuvres d'art dans la nature. Il y a un petit clin d'œil à Georges de la Tour avec cette bougie dans la cabane. Claude Gelée, moi j'ai grandi à Chamagne, là où il est né, Claude Gelée. Donc il a vu ces lumières incroyables de contre-jour avec les brumes. Théodore Rousseau, c'est pareil. Enfin, il y a des petites influences de peinture et j'adore qu'il y ait, dans mes cadres, qu'il y ait un plan fixe et qu'il y ait une bête qui rentre dedans. C'est comme un tableau qui vit, en quelque sorte. Et là, ce plan, c'est osé, mais j'adore ça. C'est presque 1 minute 30, 2 minutes de plan fixe où, en effet, on a une biche et son faon qui arrivent au milieu de l'étang. C'est dans la nuit, il y a un clair de lune, des sarcelles qui traversent, il y a des oies derrière. C'est vraiment ce qu'on vit sur le terrain. Et nous, ça nous met tellement la chair de poule, tellement le poil, on est saisi. Et ça, voilà, alors c'est des moments qu'on ose proposer, en tout cas.
Et elle repasse, suivie par le cerf.
Exactement. Alors ça, c'était un moment de grâce où ces deux biches qui traversent, un pêcheur qui vient aussi, pareil, couper l'image, hein, qui traverse l'image, et le cerf qui attend ces deux biches et qui vient les accompagner, et tout en silence, hein, même pas un rerre, pas un brame, rien.
Et ce qui n'est pas silencieux, c'est justement le face-à-face, hein, entre un cerf et un autre grand cerf. Des combats vifs, hein, mais on perçoit non seulement leur souffle, mais vos souffles mêlés. Celui des bêtes et les vôtres dans cet affût. Des moments puissants.
Bah là, il manque le sol qui tremble, il manque l'odeur du musc, du cerf. C'est vrai, quand on est tellement caché contre un arbre, là, on serre fort l'arbre parce qu'ils sont tellement excités qu'ils courent, ça court dans tous les sens et c'est extraordinaire. Et ça, c'est des moments qu'on vit qui sont rares mais qui nous transpercent. Il y a le côté très puissant de la bête, comme disait Hénard. C'est beau, ça, le mot la bête.
Ouais. Hénard, Robert Hénard, hein, vous les mentionnez aussi à la fin du film, la liste de vos inspirations, Arnès, Jean Giono, Aldo Léopold, John Muir, etc., etc., Maurice Genevoix. La nature n'est pas un spectacle, mais avant tout une vie partagée. Michel Munier, c'est ce qu'on ressent. Qu'est-ce que vous diriez et quels conseils vous donneriez aux non-avertis, ceux qui souhaiteraient justement s'initier aujourd'hui à la connaissance de la nature ?
À pénétrer dans la nature avec respect, on n'est pas chez nous, de marcher surtout lentement, de quitter ce rythme d'enfer que l'on mène et que l'on fait mener à l'ensemble de la faune, et puis de regarder où on met les pieds, est-ce qu'il n'y a pas une trace, est-ce qu'il n'y a pas des poils, et donc observer. Et quand on trouve un indice, on regarde la forêt, comment la structure de la forêt, elle vous parle, et il y a des messages réguliers, là. Et puis de temps en temps, je dirais, ben, prenez racine, un long moment, comme les arbres.
Ne pas chercher forcément ce qui est plus gros, mais pister le petit passereau de 9 grammes, c'est ça? Le troglodyte mignon, par exemple, qui était là devant vous, alors vous cherchiez encore le grand tétras.
Mais c'est ça, c'est que vous recherchez parfois l'espèce fascinante, et puis vous êtes triste qu'elle disparaisse, et puis d'un seul coup, vous avez l'insignifiant. Petite boule de 9 grammes qui vient puis qui vous dit « Non mais attends, t'arrêtes, oui ?»«
Je suis là. »«
Mais je suis là. » Allez, et là, vous écoutez l'insignifiant, vous êtes plus attentif aux petites voix. Et aux petites voix des hommes aussi. Et pas les grandes voix puissantes qui vous trompent.
Les petites voix, lesquelles? Les citoyens?
Oui, c'est très important.
Oui, c'est ce qu'il dit dans le film, ouais, ces messages des timides, des discrets. Il faut être à l'écoute, ouais.
Il va s'ennuyer
cette domination.
Votre conseil à vous, peut-être, pour ceux qui voudraient s'initier?
Ben, c'est ça, moi, je pense que ce film, je suis content quand ça donne envie d'aller dehors, en sachant que on rentre dans un monde où il y a déjà des présences, et qu'il faut être attentif de pas venir perturber tout ça, et que si on y va sur la pointe des pieds, eh ben, on va se reconnecter. J'aime pas trop ce mot-là parce que maintenant on le met au progrès, mais c'est un peu ça quand même. Il faut aller quand même dehors, il faut toucher tout ça et pour pallier à cette crise du sensible, c'est évident.
Et apprendre à siffler comme un oiseau. lutter contre une sorte de crise de la sensibilité, changer les regards, les consciences, regarder la beauté, habiter la terre sans déranger le vivant non humain. C'est ce que vous nous dites, hein, Vincent Munier.
Oui, c'est ça. Encore ce matin, je lisais vous avez parlé de Arnonès, Léopold, de Muir, Hénard, évidemment, et Bobin. Moi, j'adore la fulgurance de sa poésie. À m'offrir un livre, là, ce matin, j'ai
Christian Bobin.
Christian Bobin, absolument.
La Hulotte.
Comme quoi, la Hulotte aussi. Et il disait, donc, les animaux, ce sont des livres ouverts qui passent devant nos yeux fermés. Je trouve ça tellement... Alors, c'est triste, mais c'est une réalité. Et comment on fait pour un petit peu ouvrir ça? C'est ce qu'il disait. Il y a une écriture qu'il faut qu'on arrive à redéchiffrer.
Car Michel Munier sera peut-être votre mot de la fin, mais la nature rend humble. Et il nous faut vivre en harmonie avec elle et pas contre elle, c'est le mot de la fin.
Tout à fait. Et puis peut-être repenser à ces termes d'humilité, d'humus et d'humanité qui ont la même racine. Retrouver, je crois que si on veut retrouver les qualités de l'humanité, de notre humanité, c'est de se retrouver au contact de l'humus. C'est tellement important. Et là, on tombe aussi dans l'insignifiant, dans ce qui permet de faire renaître, puisque l'humus n'est pas de la nécromasse. C'est la biomasse. On vous dit que dans une poignée de terre, vous avez autant d'éléments vivants que d'hommes sur la terre. Mais c'est incroyable. Et donc, ça vous remet quand même en place. Et à la limite, vous ne craignez pas de disparaître. Puisque c'est pour renaître.
Mais oui, c'est ça. Mais moi, c'était presque aussi une préparation à sa disparition. C'est quelque chose. Il a un message qui est lumineux envers Simon. On est, on vit, on meurt et tout ça pour ce grand mouvement, ce grand cycle.
Le monde sauvage, c'est un monde invisible, mais qui laisse des traces. Les bêtes, on les voit pas souvent. Et c'est très furtif quand tu vois une espèce sauvage. T'attends longtemps, t'espères. Un jour, tu la vois, c'est quelques instants. Et tu te dis, j'ai rêvé. T'y crois pas, comme un mirage.
Merci à tous les deux. Merci pour ce film magnifique. Vincent Munier, à voir absolument Le Chant des Forêts. Également, à conseiller le livre du film, hein, édité chez Cobalan. Et puis, merci Michel Munier. Je rappelle le titre de votre livre, L'Oiseau Forêt, également paru chez Cobalan. Informations, bibliographie, liens utiles pour aller plus loin sur le sujet sont à votre disposition, comme d'habitude, sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Et puis, n'oublions pas, la nature n'est pas un spectacle, mais avant tout, une vie partagée.